Jean Diré des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Ça y est, les librairies rouvrent demain en France et la frénésie des cadeaux de Noël va pouvoir s'ébrouer sans passer par le click and collect, dans le respect évidemment d'un strict code sanitaire. Un Noël un peu particulier aussi, mais pas de vacances au sport d'hiver pendant les prochains congés. Les domaines skiables resteront fermés, ce qui risque de décevoir plus d'un bambin. Heureusement pour les plus jeunes, il y a le rêve, car leurs parents pourront leur raconter de belles histoires, comme celle des deux petits héros d'une nouvelle collection destinée aux 3 à 6 ans, Lee et Lo, signée Mélissa Pigua, une ancienne styliste et rédactrice de mode devenue depuis quelques années déjà illustratrice pour enfants. Les deux premiers tomes, Liello à la neige et Liello Fête Noël, sont disponibles chez GM Éditions et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Mélissa Pigua.
Bonjour.
En fait, c'est plus exactement une seconde naissance pour Liello, puisque la première fois, c'était il y a un peu plus de 6 ans maintenant, à l'initiative d'une grande franchise de vente de produits culturels, vous nous racontez ?
Oui, alors j'avais été contactée pour les 60 ans en fait de cette franchise. Donc ils m'ont demandé de créer deux collections pour enfants. Donc il y a eu une première collection dont le héros était une petite abeille qui s'appelait Busy et qui était destinée aux 0-3 ans. Et Lee et Lo, donc une collection destinée aux 3-6 ans.
Et on vous avait donné des consignes très claires ou bien vous aviez une totale liberté pour inventer vos personnages ?
Totale liberté, mais en fait ce sont des personnages que j'avais, on va dire, dans ma mallette depuis très 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 longtemps, parce que c'était des personnages que j'avais créés quand j'étais enfant. Je devais avoir 10-11 ans à peu près, et en fait je les avais créés pour ma petite sœur à l'époque. Donc voilà, j'ai ressorti ces personnages, je les ai proposés, et puis ça a plu.
C'est-à-dire que vous êtes allé farfouiller dans vos tiroirs où il y avait des croquis comme ça qui étaient restés depuis quelques années ?
Alors en fait, malheureusement, les croquis originaux, on ne les retrouve plus. De déménagement en déménagement et en dégâts des eaux, ils ont disparu. Mais par contre, bon, je les avais encore bien dans ma tête. Voilà, c'était encore très très présent. On n'oublie pas en fait.
Alors quand on crée un personnage, il faut d'abord définir leur identité. Alors pourquoi, Mélissa Pigua, pourquoi s'appelle-t-il Lee et Lo ?
Alors, c'est une très bonne question, mais alors malheureusement, je suis incapable d'y répondre. Je sais pas d'où ça m'est venu, mais je sais pas. Je trouvais que ça sonnait bien. C'était des petits prénoms courts. Je trouvais que oui, Lee, ça avait pour moi une consonance plus féminine, Lo, une consonance plus masculine. Mais alors, c'est un peu problématique pour moi, parce que souvent, quand on me demande d'où viennent mes inspirations, en fait, je ne sais pas.
Bon, vous n'êtes pas une grande lectrice de... Vous êtes une grande lectrice, je sais pas, moi, des triplés, par exemple, ou d'autres séries pour très jeunes enfants?
Et non, alors pas du tout. Et c'est drôle que vous me disiez ça, parce que on m'a parlé des triplés assez récemment, en y faisant référence par rapport à mes livres, enfin par rapport à Lee et Lo.
Oui.
Et alors c'est drôle parce que c'est pas forcément quelque chose qui enfin peut-être inconsciemment, mais alors pour moi ça m'a pas directement inspiré. En revanche, j'ai été beaucoup plus inspirée parce que enfin vraiment c'était oui, c'était à la fin des années 70, au tout début des années 80. En fait, moi, j'étais plus inspirée par les personnages japonais. Enfin, je peux pas citer, j'imagine, la marque, mais enfin, c'était la grande époque pour les enfants, de petits personnages créés par une firme japonaise avec un trait noir assez marqué, des formes très rondes, des aplats de couleurs totalement uniformes. Et moi, j'ai beaucoup plus été inspirée par cet univers-là. Très souvent, on me dit que mes dessins font plutôt penser au Japon. Et là, depuis récemment, ça fait... vous êtes la deuxième personne à me parler des triplés.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a un côté japonais.
Il doit y avoir quelque chose.
Mais c'est vrai qu'il y a un côté japonais, parce que vous décriviez effectivement l'importance du noir, hein, l'importance des traits noirs avec ces aplats de couleurs, des couleurs d'ailleurs est extrêmement vive, hein, parce que dans les deux livres que j'ai avec moi, donc Lee a un bonnet rouge, un pantalon rouge, une jupe rouge, Lo a un bonnet gris et jaune ou un pantalon gris ou une écharpe jaune. Vous avez aussi voulu identifier vos deux personnages chromatiquement.
Oui, alors bon, là dans le livre de dont vous parlez, en fait c'est lié l'eau à la neige, donc bon là ils sont en combinaison de ski. Le jaune chez l'eau, on ne le retrouve pas en fait dans les autres livres, dans sa tenue habituelle. C'est vrai que comme là c'était une combinaison de ski, j'avais envie de qu'il y ait un peu plus de couleurs. Par contre, effectivement, chez Lee, on retrouve systématiquement le rouge, hein, c'est vrai.
Mais pourquoi ? L'idée, c'est que l'enfant puisse reconnaître au premier coup d'œil le personnage ?
Ah oui, ça me semble assez important, parce que c'est vrai, quand j'avais créé ces personnages à l'époque, donc c'était pour ma petite sœur qui était, elle devait avoir 5-6 ans, et donc voilà, je voulais que ce soit effectivement des personnages facilement identifiables immédiatement et auxquels les enfants s'attachent, que voilà, ils les reconnaissent au premier coup d'œil et que ça devienne, entre guillemets, un petit peu des amis, des familiers.
Voilà, Lee et Lo, on l'a pas encore dit, mais ils sont frères et sœurs, donc le dessin implique un vrai air de famille.
Effectivement, oui, il se ressemble. Bah, de toute façon, c'est un trait qui est naïf. Hein. C'est vrai que je détaille pas beaucoup. Enfin, ça reste, oui, un peu à la japonaise, ouais, on va dire. Vraiment, c'est assez minimaliste.
Alors, on a mis en onde le début du premier récit, Mélissa Pigoua, qui s'intitule effectivement Lee et l'eau à la neige.
Pour les vacances d'hiver, Lee et l'eau partent à la montagne. Vite, on charge la voiture, il ne faut surtout pas oublier les skis et la luge. C'est parti. Enfin, les montagnes enneigées apparaissent. La route est longue et sinueuse, et le changement d'altitude bouche les oreilles de Lee et l'eau. Ils ont vraiment hâte d'arriver. Voici enfin le chalet. Lee et l'eau ne peuvent plus attendre. Pendant que leurs parents défont les bagages, ils fabriquent un bonhomme de neige. Le lendemain matin, direction les pistes. Lee a chaussé ses skis et enfile un casque. Maintenant, elle peut dévaler les pentes. L'eau, quant à lui, préfère faire de la luge. À midi, toute la famille se retrouve pour manger une fondue. Mais attention, celui qui perd un morceau de pain aura un gage.
Et comme les stations de ski seront donc fermées pendant les vacances de Noël en France, les parents pourront donc évoquer les plaisirs de la neige et de la glisse à travers votre récit. Mélissa Pigoua, ce sera toujours ça. On a l'impression qu'ils s'entendent quand même toujours bien, vos personnages, aussi bien entre le frère et la sœur qu'avec leurs parents. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de larmes. Moi, je me souviens, moi, quand j'allais, quand il faisait froid, on voulait me forcer à mettre une cagoule, ça grattait horriblement, je faisais des crises à répétition. Là, c'est pas du tout ce que vous nous racontez. Ils sont toujours gentils, il n'y a pas une méchanceté, il n'y a pas un caprice.
Alors, là, effectivement, dans les deux premiers tomes, effectivement, en revanche, il y a d'autres tomes qui vont sortir prochainement. Et un des ouvrages s'appelle « Lee et l'eau se disputent ».
Ah, donc, bah, voyez.
C'est une grosse dispute, ils sont très fâchés. Donc, non, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que voilà, ce sont des enfants qui sont mignons, qui sont gentils, mais enfin, ils sont pas parfaits. Donc, ça leur arrive de se disputer.
Donc, Lee, en tout cas, est très protectrice, très, très bienveillante. Et on a peu l'impression que l'eau est plutôt admiratif, hein. Il est appliqué, hein, comme si la grande sœur était un modèle.
Oui, c'est exactement ça. C'est voilà, on va dire que Lee sert un peu de modèle. Enfin, c'est vraiment la grande sœur. Elle essaie de montrer le chemin à son petit frère, qui lui, effectivement, est complètement béat d'admiration.
Alors, premier étonnement, dès la première double page de ce récit, Lee et l'eau à la neige, la voiture des parents de Lee et l'eau, c'est pas une voiture d'aujourd'hui, hein, c'est une Citroën DS, autrement dit, c'est la même voiture que le général de Gaulle, Michael Goncalves, qui a mis en onde le passage, et donc aller chercher le bruitage du moteur d'une vraie DS. Il en circule quand même pas beaucoup aujourd'hui en France, Mélissa Pigoua. Est-ce que l'ILO serait une série rétro?
Alors oui, non, c'est sûr qu'il y a un petit côté vintage. Hein, bon, c'est vrai que moi j'adore les années 50, hein, esthétiquement, hein, j'entends sur le design, la mode, etc. Bon, c'est vrai que ça a été créé. Moi, j'ai créé les personnages à la fin des années 70, enfin début 80, je me souviens plus exactement. Mais alors, pour reparler de la voiture, effectivement, tout le monde pense que c'est une déesse. Mais alors, figurez-vous que c'était pas ce que j'avais pris comme modèle. Non, je vous assure, j'y connais rien en voiture, j'ai même pas le permis. Moi, je ne conduis pas. Mais j'étais allée sur Internet, j'avais regardé différentes voitures vintage. Et en fait, j'ai pris un autre modèle de voiture que j'ai un peu transformé. Alors, il se trouve qu'au final, oui, ça ressemble à une DS, mais c'était pas le modèle que j'avais pris au départ. Moi, il n'y a que les voitures vintage que je trouve belles. Après, au niveau des performances, je n'y connais rien. Mais oui, d'un point de vue esthétique, ça me correspond plus. Et puis ça doit me rappeler certainement mon enfance, je suppose, hein, je pense. Hein.
Jules, c'est ton premier Noël, ton âme n'est encore que dentelle, fragile et beau comme le jour, tu fais déjà des jaloux, toi qu'on inonde d'amour, le monde est à tes genoux. Je tiens à ce que tu saches que la jeunesse passe vite, que déjà le temps prend la fuite. Jules, c'est ton premier Noël. J'ai écrit ton nom dans le ciel pour fêter ton arrivée, pour annoncer ta venue à ce que tu vas aimer. De tout ton être ingénu, je tiens à ce que tu saches que l'amour est sans issue, qu'on doit aimer sans retenue. Jules, c'est ton premier Noël, ta route est d'étoiles nouvelles, et en suivant leur sillon, tu dessineras ton bonheur. Il sera doux et fécond, orné de quelques douleurs. Je tiens à ce que tu saches que les obstacles qui s'imposent font de la vie une belle chose.
Pierre Lapointe, le premier Noël de Jules sur RFI, extrait du nouvel album du chanteur québécois Chansons Hivernales. Et vos deux jeunes héros, Mélissa Pigouin, fêtent eux aussi Noël et se préparent à le fêter. On sent que vous êtes très attachés à la tradition, hein. Il y a le sapin, il y a les cadeaux dans l'autre album, hein, Liello à la neige, il y a la fameuse fondue, hein, qu'on évoquait il y a un instant. Liello, c'est aussi pour vous un moyen de transmission familiale des traditions?
Oui, alors en fait, justement, moi, quand j'étais enfant, on fêtait pas vraiment Noël à la maison, parce que comme la famille était un petit peu dispersée dans différents pays, du coup, on n'avait pas comme ça de grands regroupements familiales. Ma mère, justement, n'était pas spécialement attachée aux traditions, on n'avait pas de sapin, et je pense, oui, certainement, ça a dû me manquer, et c'est vrai que là, je me fais un point d'honneur, moi, de faire un sapin tous les ans, de faire un dîner un petit peu festif. Oui, je pense que c'est quelque chose de sympa. C'est un moment à passer en famille. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué, évidemment, cette année. Mais oui, c'est quelque chose auquel je tiens aujourd'hui, oui, beaucoup.
Et puis, Liello, surtout, attendre, évidemment, le Père Noël.
Avant d'aller se coucher, Liello dépose au pied du sapin une assiette de biscuits et un grand verre de lait. C'est pour le Père Noël, car il faut qu'il prenne des forces pour terminer sa tournée. Mais Liello ont un plan secret. Une fois que leurs parents seront au lit, ils iront se cacher dans le salon pour attendre le Père Noël. Ils se relèvent tout doucement et vont se poster derrière le sapin, tout près de la cheminée. Joyeux Noël, les enfants! Que faites-vous ici? Liello ouvre péniblement les yeux. Il fait déjà grand jour. Ils comprennent qu'ils se sont endormis dans le salon et qu'ils ont manqué le Père Noël. Ils sont très déçus.
Voilà, alors on ne sait pas évidemment si le Père Noël cette année aura besoin d'une attestation ou si les cheminées seront ouvertes. Jean Castex, le Premier ministre français, ce jeudi n'a pas donné de précision. Bon, en tout cas, on a presque tous fait ça, Mélissa Pigouin, quand on était enfant, a tenté de veiller pour surprendre le Père Noël en plein travail. Sauf que là, eh bien, c'est loupé. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dessiné le Père Noël, mis à part les petites figurines qui sont accrochées dans votre sapin?
Ben parce que justement le Père Noël c'est quand même un personnage très très mystérieux et moi personnellement je ne l'ai jamais vu, donc j'ai préféré ne pas le dessiner pour ne pas faire d'erreur vu que voilà je ne l'ai jamais vu.
Donc il y a un souci d'exactitude de la part de la dessinatrice que vous êtes. Votre dessin justement, Mélissa Pigoua, vous travaillez à la main ou sur ordinateur?
Pour Lielo, je dessine sur l'ordinateur. Alors c'est une technique que j'ai découvert assez tard. Hein. Je suis pas très informatique à la base, mais j'ai quand même voulu apprendre parce que justement j'aime bien les aplats vraiment très uniformes. Et c'est vrai qu'à la main c'est quand même plus difficile. Je voulais justement faire quelque chose avec des ronds quasiment parfaits. Et du coup, j'ai décidé de m'y mettre. Et alors, j'avoue que c'est une technique au final qui me plaît. Parce que ça permet d'essayer plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut décider de changer de couleur, d'essayer, de revenir en arrière si finalement ça nous plaît pas. Mais en revanche, je fais très souvent quand même un brouillon à la main avant pour au moins avoir ma mise en page. Et puis ensuite seulement, je passe à l'ordinateur.
Et avant de faire des livres pour enfants, vous étiez styliste de mode. Vous avez travaillé pour Yves Saint Laurent, excusez du peu. Il y a une continuité entre les deux activités?
Oui, bah, je pense, parce que oui, un sens de l'image, hein, de l'esthétique, enfin de l'harmonie des couleurs, enfin je pense que tout ça effectivement va ensemble, oui.
On nous annonce un Lielo se déguise pour très bientôt. Est-ce que ce sera l'occasion pour vos jeunes lecteurs et pour leurs parents aussi, pour vous, de vous faire découvrir peut-être quelques-unes de vos créations vestimentaires?
Non, alors parce qu'il se déguise vraiment en pirate, en princesse, en esquimau, enfin voilà, non, c'est pas vraiment des gravures de mode.
Bon, pourquoi vous avez laissé tomber la mode? Parce que vous aurez très bien pu poursuivre les deux activités en parallèle, non? C'est pas un travail à plein temps, quand même, Lielo.
En fait, alors justement, si je continue, hein, je me partage entre les deux, en fait. C'est vraiment les livres pour enfants, c'est quelque chose que j'avais en tête, depuis l'enfance. Et à l'adolescence, j'ai bifurqué plus sur la mode, le stylisme. J'ai commencé en tant que styliste, rédactrice de mode. Et en fait, c'est à la naissance de mon fils, donc en 2001, que j'ai commencé à repenser aux livres pour enfants, et je m'y suis remise plus tard en 2009, mais sans laisser tomber complètement la mode. Non, je continue comme styliste.
Merci beaucoup Mélissa Pigoua. Lielo à la neige et Lielo fête Noël, c'est aux éditions GM. Paciencia, Damian Nueva et son quintet dans VMDN sur RFI, ce qui nous amène à Cuba, où l'industrie de la mode est réinvestie par les jeunes. Longtemps considérée comme futile et superflue par la révolution, la mode cubaine tente en effet d'opérer un retour sur l'île communiste. Les jeunes créateurs et surtout créatrices de mode se lancent, innovent et peuvent déjà même revendiquer quelques beaux succès malgré toutes les barrières cubaines. Notre correspondante à La Havane, Domitille Piron, est allée à la rencontre de cette nouvelle génération de designers et créateurs, très imprégnés, il faut le dire, de leur héritage socialiste.
Poussons la porte de chez Dador, un petit cocon de tranquillité et de bon goût en plein cœur du quartier populaire et touristique de la Vieille Havane. Ce magasin de vêtements a mis beaucoup de temps à voir le jour. Les deux fondatrices de Dador reconnaissent qu'il n'a vraiment pas été évident de lancer leur marque en 2015. Lorraine Farhad.
Ici à Cuba, c'est très difficile de trouver la matière première. Donc au début, quand on voyageait à l'étranger, on ramenait des tissus dans nos bagages. Et les machines qu'on utilise, ce sont des vieilles singères, ce sont des machines vraiment vintage.
À l'étage, les couturières, une équipe assez jeune, 100% féminine, effectivement derrière de vieilles machines à coudre. Les difficultés d'importation à Cuba ne sont pas les seules barrières que Dador a dû franchir. Selon Ilse Rodriguez et Lorraine Faraldo, la mode dans la Cuba communiste a perdu de son intérêt.
Après 1959, l'industrie de la mode a été laissée de côté. Alors qu'ici, il y a toujours eu une tradition de la couture. Ici, les femmes savaient faire des patrons et faisaient leurs propres vêtements. Mais après la Révolution, la mode est devenue quelque chose de frivole à leurs yeux. C'était superficiel et ça n'avait aucune valeur. Et elle a été abandonnée.
Oui, à l'époque, c'est devenu quelque chose de purement fonctionnel. C'est d'ailleurs ce que fait l'industrie de la mode ici. Elle produit des vêtements fonctionnels, comme les uniformes.
Les vêtements de Dador dénotent effectivement dans le paysage de la mode cubaine, où l'on porte plutôt l'uniforme vert olive des militaires, un bleu de travail, un uniforme d'école ou encore la très officielle guayabera, la chemise.
Avec un design classique timeless qui n'est pas lié à une tendance.
Les Cubains sont plutôt habitués à des vêtements de contrefaçon, importés, et la femme cubaine ne quitte jamais son lit. Un genre de pantalon très moulant. Mais Dador, qui a principalement des clients étrangers, intéresse de plus en plus les Cubains.
Ce qu'on fait est considéré comme de la slow fashion, la mode lente. Ce sont des vêtements qui peuvent te coûter plus cher, mais qui vont te durer, parce que c'est de la bonne qualité.
Avec un design classique timeless qui n'est pas lié à une tendance, donc qui peut se porter année après année.
La slow fashion est presque une évidence à Cuba, où le pouvoir d'achat des ménages est très bas et où le recyclage est presque un art de vivre. À deux pas d'ici, nous entrons chez Clandestina, ambiance plus dynamique et branchée. Cette autre marque de mode est un véritable succès cubain qui dépasse même les frontières. Ici, les vêtements sont faits principalement à partir de tissus recyclés et chaque pièce est unique. Laire Fernandez est la cofondatrice de Clandestina. De nationalité basque, elle s'intéresse particulièrement à la mode éthique. C'est ainsi qu'elle a lancé la ligne Vintrash pour la conjonction de vintage et trash, comme poubelle.
C'est totalement contradictoire de créer une marque de vêtements. Et la seule manière qu'une marque de mode ait du sens ici, c'était de l'ancrer dans l'héritage socialiste de l'île. Pas forcément socialiste au sens politique, mais plutôt humain. Et en termes de pratique de vie, où la consommation ni le marché ne dirigent ta vie.
Au fond du magasin, l'atelier avec des machines de transfert et de sérigraphie. C'est ici que les t-shirts recyclés sont imprimés avec des designs modernes, des textes au double sens comique, presque irrévérencieux. La cofondatrice et designer Idania Del Rio.
À Cuba, les choses sont très monotones. Donc on essaye de créer un espace avec une pensée un peu différente, mais toujours avec le sens de l'humour, parce qu'il ne faut pas non plus tout prendre au sérieux. Et aussi, parce que c'est très important pour vivre à Cuba d'avoir le sens de l'humour.
Ces jeunes créatrices sont encore des exemples rares de marques du secteur privé cubain, mais elles font des émules, signe des temps qui changent à Cuba. Demetti Piron, La Havane, RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et cette semaine, autour de la table du Café Gourmand, Fanny Blechner, Amélie Beaucourt, Edmond Sadaka et Alain Pilot. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
Est-ce bien la vraie Amélie Beaucourt, d'ailleurs, qui est avec nous aujourd'hui? Je ne vous cache pas que je me pose un peu la question, puisqu'Amélie, vous êtes devenue une experte en contrefaçon, pas vrai?
Exact, oui, j'ai entre les mains le dernier livre de la journaliste Cathy Robin, qui a enquêté sur les faussaires dans le monde de l'art, et qui nous apprend tous des secrets des plus grands génies du faux.
Fanny, nous sommes décidément bien peu de choses à côté de votre science, vous avez donc voulu relever le niveau. Oui. Avec vous, on va côtoyer de grands intellectuels.
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Claude Lanzmann et Frantz Fanon, rien que ça, réunis le temps d'un très court séjour à Rome à l'été 1961. Fanon, le psychiatre et penseur anticolonialiste, demande à Sartre de préfacer son livre Les damnés de la Terre, le tout sur fond d'indépendance de l'Algérie. C'est sur cette rencontre qu'a décidé de se focaliser le roman graphique qui vient de sortir chez La Découverte.
Quant à vous, Alain, vous avez choisi de mettre en haut de l'affiche un Malien à Paris.
Pedro Kouyaté, titulaire d'une licence de socio-anthropologie, parrainé à son arrivée par Boubacar Traoré, le fameux chanteur originaire du Mali aussi.
Mais on va commencer également en musique dans un tout autre genre.
This is with my woman, 'cause she couldn't help me
Certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu, le groupe de rock britannique Black Sabbath, considéré comme l'un des groupes fondateurs du métal. On va donc en parler avec vous, Edmond du Métal, à l'occasion de la sortie du livre Métal, 40 ans de musique puissante, effectivement, je confirme. Un livre qui est signé de Bertrand Allary pour les photos et Jean-Pierre Sabouret pour les textes. Il nous replonge ce livre, et on en a bien besoin, dans l'ambiance des concerts.
En effet, une ambiance que l'on retrouve tout au long des 320 pages de cet ouvrage d'une taille et d'un poids assez impressionnant d'ailleurs. Il répertorie environ 400 groupes classés tous par ordre alphabétique. Alors côté photo, on en prend plein les yeux avec les images de Bertrand Allary, un photographe régulièrement publié par les magazines spécialisés depuis 40 ans. L'idée de ce livre, elle taraudait Bertrand Allary depuis un bon moment et pour cause.
C'est pas moi qui choisissais ce qui passait dans les magazines. Et les choix ne correspondaient pas tout le temps à mes propres choix. Donc à partir de là, j'avais pris l'habitude de faire des petites boîtes de diapos à l'époque où je mettais dessus moi plus tard. Et je me disais qu'un jour, j'aurais un choix personnel qui pourrait justement sortir dans un livre. Les photos pourront garder 666. Moi, j'en ai 30 000 des photos, donc c'est pas si simple que ça. Scorpion, pour prendre un exemple, qui est le groupe que j'ai dû voir le plus de fois, je l'ai peut-être vu 50 ou 60 fois sur scène.
Les Allemands de Scorpion, toute ma jeunesse. Est-il possible, Edmond, de définir en quelques mots pour les profanes ce qu'est la musique métal ?
Alors, c'est une musique née à la fin des années 60 en Angleterre, dans la foulée des groupes de rock et de blues, mais en plus élaborée, plus sophistiquée musicalement, contrairement d'ailleurs à certaines idées reçues. L'amplification est ici beaucoup plus importante aussi, avec notamment des guitares électriques très saturées. Dans le métal, il y a donc aussi le principe de groupe qui est essentiel. C'est ce qu'explique le journaliste Jean-Pierre Sabouret, grand spécialiste en la matière. Il a rédigé tous les commentaires de ce livre.
Il n'y aurait que le guitariste, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc c'est aussi formidable rythmique, c'est-à-dire basse-batterie, très souvent de très très bons claviers aussi, et puis des chanteurs aussi, voilà, qui ont du coffre, dont certains ont aussi une technique assimilable à celle de l'opéra. Je pense notamment à Bruce Dickinson, qui savent rivaliser justement avec le guitariste qui joue de façon lourde et électrique et puissante.
Et parmi les vétérans du métal, comment ne pas les citer ? Il y a bien sûr Led Zepp.
Led Zeppelin, dont Jean-Pierre Sabouret écrit dans cet ouvrage que dans l'histoire du rock, c'est le seul groupe avec les Beatles dont la séparation a laissé un vide qui n'a jamais été comblé. Led Zeppelin a influencé des générations de musiciens et notamment celui qui signe la préface de ce livre, Norbert Krief, guitariste vedette du légendaire groupe français Trust. Il se souvient du jour où il a découvert Led Zeppelin.
J'ai 13 ans, je suis dans ma chambre, j'entends, ma mère est dans la cuisine, elle écoute la radio, et j'entends ce son-là qui arrive jusque dans ma chambre, et c'est Who Lotta Love de Led Zeppelin, et ça m'interpelle tout de suite. Je fonce dans la cuisine, j'écoute ça, et je fais waouh. Là, j'écoute jusqu'à la fin, et à la fin, c'est bizarre, ça me fait une sensation comme si j'avais une révélation, quoi. Grâce à Led Zeppelin et à Jimmy Page, en fait, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la guitare, et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux autres guitaristes. Donc, je n'écoutais plus que des disques où il y avait un guitariste et des solos.
Et on le disait, Edmond, cet ouvrage est illustré par la formidable collection de photos de Bertrand Allary, avec d'ailleurs un grand nombre de clichés inédits.
Oui, des photos de concerts, des portraits posés également. Et j'ai demandé à Bertrand Allary si ces groupes de métal ont accepté facilement de se faire photographier.
Les groupes de métal, contrairement à la plupart des autres artistes, on va dire, sont pratiquement tous ce qu'on appelle des poseurs. C'est-à-dire qu'ils adorent faire des photos. Ils ont un look, ils veulent le montrer, donc ils sont entièrement d'accord pour faire un tas de grimaces, surtout si vous les y poussez un tout petit peu.
Précisons qu'à partir des années 90, les choses vont se compliquer pour les photographes, l'entourage des artistes voulant contrôler de plus en plus les images. Bertrand Allary évoque d'ailleurs largement le sujet dès le début du livre.
Bon, on le voit là, en regardant ceux qui sont réunis autour de moi dans le studio. Edmond, le métal, c'est quand même une musique qui a encore des adeptes aujourd'hui.
Aucun doute là-dessus, c'est même un style qui passe, malgré le fait en tout cas qu'il passe peu en radio, eh bien il passe dans les festivals, beaucoup de festivals lui sont dédiés, ne serait-ce qu'en France, il y en a deux assez gigantesques d'ailleurs, le Hellfest et le Motocultor qui rassemblent tous les ans des dizaines de milliers de spectateurs et de fans où se produisent toutes les générations de musiciens. Alors justement, trouve-t-on chez les jeunes groupes une relève digne de leurs aînés? Écoutez Jean-Pierre Sabouret.
Depuis Metallica, on va dire, c'est peut-être ça le gros problème du hard et du métal, c'est de ne plus arriver à faire des espèces de grands monstres comme ça qui remplissent les stades et font l'unanimité. Voilà. Alors bien sûr, il y a quand même des groupes rassurants. Il y a des Ghost, il y a des Slipknot, mais il n'y a pas cette espèce de phénomène exceptionnel qu'il y a eu pendant si longtemps dans le métal, c'est-à-dire des titans, des groupes plus grandes nature.
Ouais, Jean-Pierre Sabouret, à votre micro, Edmond, Métal, 40 ans de musique puissante. Un ouvrage signé Bertrand Allary et Jean-Pierre Sabouret, publié par la maison d'édition Grund. Et vous m'avez donné envie, on va peut-être faire un petit tour au Hellfest de ces quatre. Août 1961, nous sommes à Rome, Fanny, et c'est là qu'ont décidé de se retrouver plusieurs grands intellectuels.
Le couple Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir va enfin rencontrer Frantz Fanon, grand penseur révolutionnaire accompagné de Claude Lanzmann. Sartre vient d'accepter de préfacer son livre, Les damnés de la Terre. Le roman graphique intitulé Frantz Fanon a décidé de se focaliser sur cette rencontre. Trois petits jours, mais d'une grande importance, nous explique Frédéric Sériez, l'auteur.
C'est une rencontre bouleversante, finalement, entre deux trajectoires, deux hommes. Sartre, je pense, a découvert à sa manière Fanon. Il s'est dit, voilà, c'est une personnalité incandescente, et évidemment, Fanon l'a démontré. Et puis Fanon, lui, désirait très très fort, il admirait Sartre pour sa philosophie, pour son théâtre. Il a négocié la préface des damnés de la Terre. Et puis, tout simplement, c'est aussi sur un mode modeste qu'on évoque, à mon avis, pas assez, tout simplement, la naissance d'une amitié possible.
Et l'on suit donc dans cette bande dessinée très dense leur débat.
Et sur quel genre d'idée?
Alors, il est surtout question de décolonisation. C'est l'objet de l'essai de Fanon, Les damnés de la Terre. Frantz Fanon, qui est martiniquais et qui demande aussi un engagement de la France et de la gauche française, notamment pour l'indépendance de l'Algérie.
Je pense que pour Sartre, si vous voulez, Fanon est quelqu'un qui, très très concrètement, est passé à l'acte. Ce n'a pas tout à fait fait Sartre. C'est un puncher, c'est un boxeur, Fanon, et le débat a dû être formidable. J'aurais aimé mettre une petite souris, peut-être, pour voir ce qu'ils se sont dit. Alors ça, on ne saura jamais. Alors il y a deux témoignages. Il y a le témoignage de Simone de Beauvoir et le témoignage de Claude Lanzmann, qui en parle dans le livre de Patagonie.
Et Frantz Fanon est déterminé, cela se sent dans ses propos. Il a une exigence intellectuelle certaine et il veut convaincre Sartre.
Donc il y a beaucoup de dialogues, j'imagine, dans cette bande dessinée.
Effectivement, des dialogues très nourris, référencés. Ce n'est pas forcément, Jean-François, une lecture très légère qu'on peut faire en ayant l'esprit ailleurs. Mmh. Et mettre tout ça sous la forme de BD, comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas été simple pour Romain Lamy, qui signe d'ailleurs son premier roman graphique.
La partition huis clos et flashback, ça a été décidé très vite. Et ça a été la grande difficulté à mettre en scène. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment des temps très définis et aussi un nuancier de couleurs associé à ces séquences flashback, ces séquences huis clos, et qu'on différencie bien les flashbacks et les huis clos. Donc ça a été ça la principale contrainte. En plus d'illustrer une conversation qui parfois est très théorique, très conceptuelle. L'autre difficulté a été aussi de décrire une période qui n'existe plus, c'est-à-dire les années 50. En termes de mobilier, tous les détails qui font l'imaginaire d'une période. À ce niveau, j'ai dû faire quand même pas mal de recherches.
Et quant au style de dessin, eh bien, là encore, l'idée était d'éviter les anachronismes.
Mon problème à moi, c'était de m'approcher un peu des années 50, en tout cas du contexte dans lequel s'est passée cette rencontre entre les quatre protagonistes. Et à un moment donné, j'ai estimé que ça pouvait être intéressant, même techniquement, de s'approcher des techniques qui étaient... en cours à ce moment-là, des techniques d'illustration, de dessin. Donc j'ai très très peu utilisé d'outils numériques. J'ai donc fait des vraies planches sur papier. Pour la couleur, par exemple, j'ai utilisé de l'aquarelle.
Donc et entre les dessins à l'aquarelle et l'écriture des dialogues, Fanny, c'est un travail qui a dû prendre pas mal de temps.
Oui, 2 ans et demi. Les deux hommes se sont notamment longuement documentés.
J'ai pas mal passé de temps avec Marie-Jeanne Manuelan, qui était l'assistante, si vous voulez, de Frantz Fanon, qui a tapé les damnés de la Terre. C'était formidable, on a eu beaucoup de... très très beaux échanges, et puis on a eu un accès, si vous voulez, de premier plan à la description de ce qu'a pu être cette aventure complètement dingue.
Bon, mais ça reste quand même assez ardu intellectuellement, même moi je peux comprendre.
Oui, je pense, ce n'est pas simple, mais ce sont des questions passionnantes que les éditions La Découverte ont voulu rendre un peu plus accessibles, d'où cette forme de bande dessinée, on l'a dit, et puis finalement ce sont vraiment des thématiques contemporaines.
Ces trois livres finalement fondamentaux posent successivement la question de l'identité, de ce qu'on appelle aujourd'hui la racisation de la France aussi d'une certaine manière, la question pour l'enceinte de la révolution algérienne de ce que c'est qu'une expérience sociale aussi, hein, c'est quoi à un moment expérimenter des choses, essayer de sortir d'un système pour essayer de bâtir autre chose sur un mode nouveau hors des carcans qui nous ont été imposés, et puis les la Terre qui est un brûlot complètement incroyable qui pose quant à lui la question de la violence. Donc voilà, si vous voulez, toutes ces questions on peut bien évidemment les actualiser hein, au regard des événements du monde contemporain.
Et puis parmi ces interrogations sur l'identité, la langue aussi joue un rôle important. Une langue noble, ciselée de la part des intellectuels réunis à Rome, mais aussi beaucoup de passages en créole, un choix évident pour Frédéric Sériès.
Moi je viens de Bretagne, donc si vous voulez, j'ai vraiment une conscience aiguë de ce que peut être évidemment la langue, en tant qu'elle est constitutive d'une identité. Faire une BD sérieuse, et j'espère que la bande dessinée est sérieuse, ce qu'on propose sur Fanon, sans proposer du créole, c'était impensable. C'est pas simplement une question d'hommage, c'est une question de vérité historique, si vous voulez. C'est que Fanon, avec les copains, voilà, quand il était jeune, mais parlait créole, hein, c'est comme ça.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers ces trois jours d'août 61 sur lesquels l'ouvrage a décidé de se focaliser, on brosse quand même un portrait de Frantz Fanon.
Oui, c'est une manière originale de revenir sur sa vie par flashback. Et l'un des aspects passionnants, c'est la formation de Frantz Fanon, une formation de médecin, de psychiatre, et cela joue un rôle important dans sa façon même de penser la Révolution.
C'est quelqu'un qui a une vision médicale de la colonisation en tant qu'elle est une pathologie. On dit souvent que Fanon est un théoricien de la violence. C'est pas précis, c'est plutôt un théoricien de la désaliénation qui peut éventuellement passer par des moyens violents, hein, ce qu'on peut appeler la Révolution. Alors dans la bande dessinée, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté sur sa formation médicale, qui est juste passionnante, une formation dans un premier temps académique, et puis une formation d'avant-garde, aux côtés de Tosquelles, qui était un maître psychanalyste catalan, et au contact duquel il a été formé, si vous voulez, à une psychiatrie d'avant-garde, ce qu'on appelait à l'époque la social-thérapie, et que lui a pratiqué à Blida, en Algérie. Donc si vous voulez, l'Algérie est devenue pour lui le terrain explosif où tout s'est concentré.
Mais Frantz Fanon meurt à l'âge de 36 ans d'une leucémie fin 1961, quelques mois donc seulement avant la signature des accords d'Évian et l'indépendance de l'Algérie.
Frantz Fanon, bande dessinée signée Frédéric Sériès et Romain Lamy, publié aux éditions La Découverte. Merci Fanny.
Faux aubussons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur, fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues. Faux ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes.
Démêler le vrai du faux, c'est ce qu'essaie de faire tout bon journaliste. Vous le savez, Amélie, Cathy Robin, l'une de nos consoeurs, a elle essayé de démêler le faux du vrai en enquêtant sur les plus grands faussaires de l'histoire de l'art. Son livre, Les génies du faux, est publié aux éditions EPA et il nous révèle les secrets de ceux qui ont tenté de faire fortune avec de faux tableaux, de faux bijoux, de fausses bouteilles de vin même. Alors moi, Amélie, quand on me parle faux tableaux, je pense tout de suite aux époux Beltracchi. Je crois qu'ils sont effectivement dans la liste.
Oui, Wolfgang et Hélène, les Bonnie and Clyde de l'art, 16 millions d'euros réalisés sur la vente de 300 toiles de maître, des Picasso, des Braque, des Derain, tellement bien fait que même la veuve d'un des peintres plagiés n'y a vu que du feu. C'est bien sûr l'une des histoires les plus rocambolesques du livre, mais ce n'est pas la seule. Il compte 28 portraits des plus grands truands du marché de l'art, des plus audacieux, crapuleux, aux plus touchants également, car il est aussi des profils auxquels on s'attache. Cathy Robin a d'ailleurs son histoire préférée.
Parmi toutes les histoires que j'ai racontées dans mon ouvrage, c'est celle de Mark Landis, qui est un Américain qui est né au milieu du XXe siècle. Et ce garçon a été diagnostiqué schizophrène. Il a perdu son père à 17 ans, ce qui l'a plongé dans une profonde dépression. Et en fait, c'est un personnage qui a commencé à faire des faux pour honorer la mémoire de son père. Et il avait la particularité de ne pas les vendre, mais de les offrir. Donc c'est ce que j'appelle, et c'est ainsi que je l'ai appelé, le faussaire philanthrope. Et c'est un personnage attachant qui est candide, naïf, gentil. Naïf, pas tant que ça non plus, parce qu'il a une quête de reconnaissance et il a cette particularité d'être capable de peindre aussi bien un Picasso que de dessiner un Walt Disney. C'est quand même le seul dans l'histoire, en tout cas moi c'est le seul que j'ai découvert, qui n'a jamais cherché à profiter de son art, quoi. C'est-à-dire que c'était un faussaire qui ne gagnait pas d'argent. Et d'ailleurs, il n'a pas été attaqué par la suite en justice parce que justement, il ne faisait aucun bénéfice sur ses faux.
Et pour chaque histoire, on a le déroulement très précis, hein, du mode opératoire du faussaire et la faille qui a fini par le faire tomber. Est-ce que c'est plutôt une galerie de portraits, Amélie, ou un livre d'enquête ?
Alors, il peut être lu dans les deux sens. En revanche, il a été conçu comme une enquête, ce livre. D'ailleurs, Cathy Robin est avant tout journaliste, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Alors, elle a pris soin de faire ses recherches avec une minutie toute particulière, car on s'en doute, les faussaires n'aiment pas tellement la vérité, et encore moins celle qui les concerne.
Je me suis documentée dans des bibliothèques, j'ai lu des livres de spécialistes du marché de l'art, j'ai lu des biographies de faussaires, j'ai également parcouru beaucoup de documents d'archives et puis après j'ai recoupé les informations, j'ai éliminé celles qui me paraissaient douteuses, peu étayées ou qui étaient contradictoires. J'ai beaucoup cherché à ce que les informations soient recoupées plusieurs fois, car c'est un univers un peu particulier où évidemment les gens sont peu disert, où il y a beaucoup de mythomanes, donc il faut faire très attention. Donc ça n'a pas toujours été très simple, mais c'était passionnant.
Et ce qui est passionnant aussi, Amélie, c'est de découvrir le détail qui a trahi ces grands faussaires.
Oui, alors évidemment, il y a des erreurs plus grossières que d'autres. Une pièce de Shakespeare qui réapparaît 100 ans plus tard avec une orthographe trop moderne pour son époque, on s'en rend compte assez vite. D'ailleurs, Jean-François, si vous cherchez un jour à plagier Molière, assurez-vous au moins d'utiliser un vocabulaire d'époque.
Diantre, Bélitre, La Peste, Soie du Fat.
Ça devrait coller. En revanche, il y a effectivement des erreurs qui relèvent d'un détail que seule la science peut révéler. Les Beltracchi, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ont été démasqués à cause d'une toute petite touche de couleur, le blanc de titane, retrouvé sur l'un des tableaux daté de 1914, alors que le pigment utilisé n'a été commercialisé qu'à partir de 1938. Alors avec tout ce qu'elle a appris sur l'art du faux, j'ai demandé à Cathy Robin quel artiste était finalement la proie idéale pour ne pas se faire pincer si on décide d'entamer une carrière de faussaire.
J'irai vers un artiste moderne, postérieur aux années 1990. J'éviterai ainsi de me confronter à la science, qui est capable aujourd'hui de dater les œuvres, de détecter les pigments, de pénétrer les toiles ou les objets d'art ou les meubles, de repérer les fausses fissures, les lacunes, les dessins préparatoires. Je resterai donc avec des peintres ou des artistes qui utilisent des outils et des techniques modernes. Et j'irai plus facilement sur le dessin parce que c'est un médium que l'on trouve assez facilement et qu'il est facile de copier et qui a une très bonne cote actuellement.
Alors, autre conseil de Cathy Robin, évitez de reproduire telle quelle une œuvre, mais en inventer une autre à la manière d'eux, en la faisant passer pour une toile ou un dessin inconnu de l'artiste. Et bien sûr, choisir un artiste récent donc, mais qui est mort, afin qu'il ne puisse pas lui-même infirmer votre travail.
C'est mieux en effet. Alors quand même, Amélie, il y a de quoi devenir parano. Comment est-ce que je peux savoir, quand je vais au musée, que tous les tableaux qui sont devant moi sont des vrais ?
Eh bien, vous ne pouvez pas le savoir, Jean-François. Ah. D'ailleurs, certains sont délibérément des imitations, des copies officielles, disons, pour des raisons de sécurité notamment. Mais on pense aussi que certains musées n'ont jamais voulu admettre qu'ils aient pu se faire berner. Mais bon, inutile de verser dans la théorie du complot, mieux vaut apprécier l'art pour l'art. Après tout, si personne n'a décelé le faux dans l'objet que vous observez, c'est qu'il doit être très fidèle à l'original.
Les génies du faux de Cathy Robin à découvrir aux éditions EPA. Camillo, Pedro Cuyate dans le Café Gourmand de VMDN. Pedro Cuyate, dont vous nous disiez, Alain, que c'était un Malien à Paris. À quelle époque s'est-il installé dans la capitale française ?
Alors c'est en 2006, Jean-François, c'est là qu'il monte la formation Pedro Cuyate and Band avec quatre musiciens de jazz. Dès lors, sa carrière artistique se diversifie, il compose la musique et joue le rôle principal dans le film Folie de Sophie Conté-Cuyate et sa compagne. Il joue aussi bien dans le métro parisien qu'au sein du musée de la Cité de la Musique de Paris-Villette ou que sur de grandes scènes auprès du jazzman Archie Shepp, sans oublier avec son groupe et son propre répertoire aux côtés de ses amis Vincent Buchet, Jean-Philippe Riquel ou Osmo Puccino. Qu'est-ce que cela lui procure ?
Ça me procure une joie, et parce que nous jouons une musique qui n'est pas écrite. L'Africain joue une musique qui est sentie, et qui veut faire son et sentir. Donc nous n'avons pas de pupitre en Afrique. Ça, c'est très important. Charles Trenet, il a écrit, Racheta a repris des chansons Charles Trenet. Mais chez nous, c'est pas comme ça la musique. C'est-à-dire, il faut que tu coupes ton feu intérieur, que tu lâches prise et que tu joues. Et dès que tu chantes en français, tu désacralises cette musique-là. Mais au fait, toutes les musiques africaines ne sont pas sacrées. Voilà, donc quand je vais avec un mec comme Oxmo Puccino, je sais qu'il écrit. Et si j'ajoute ma petite graine de folie avec une plume qui n'est pas attendue, je montre l'autre visage de l'Afrique que Francis Bébé a voulu montrer à ma mort. Voilà, donc ça me procure de l'honneur, beaucoup de responsabilité encore.
C'est l'hiver. Un long passage du gris au vert. C'est l'hiver. Aujourd'hui, sous le soleil, il y a du blanc. On marche avec des bottes et on met des gants. Ikouyaté.
Hiver, Pedro Kouyaté en duo avec Oxmo Puccino. En quelle année, Alain, Pedro Kouyaté a-t-il publié son premier album ?
Premier disque, One, sort en 2010, réalisé en région parisienne avec des grands noms du jazz et du blues. Il rencontre un certain succès. Pedro présente ensuite un spectacle en duo avec les JMF, les Jeunesses Musicales de France, à destination du jeune public sur l'art du griot. Son deuxième opus, To You, paraît à la même époque, entièrement acoustique. Pedro Kouyaté joue en binôme avec le batteur de jazz Renaud Olivier et s'accompagne de sa guitare et de ses ngonis. En 2012, il enregistre son premier live suite à une tournée japonaise en compagnie de son groupe. Pedro privilégie les instruments ancestraux. Pour quelle raison ?
Ben parce que je suis lié à mes racines. J'ai été choisi par les dieux de la musique qui sont là-haut. Ils passent par moi. Je les suis depuis tout petit. Et quand je me mets à jouer un instrument comme le kamalingoni, qui est un instrument qui vient de la confrérie des chasseurs mandingues, c'est différent de la kora. Et là, je suis complètement dans la forêt africaine, même si je marche sur le 5e avenue à Broadway ou bien à New York. C'est ça la puissance de l'instrument. Quand tu joues un instrument traditionnel, t'es complètement transcendé. Tu fais bien, quoi. C'est trop kiffant.
Pedro Kouyaté, Vite à vie, avec la participation de Mamani Keïta. Que va-t-il se passer pour lui après 2012 ?
Alors pendant les années suivantes, les tournées s'enchaînent et Pedro compose pour des films et documentaires. Il est programmé aussi bien dans les festivals jazz que musique du monde. En 2014, arrive dans les bacs des disquaires Tramontane, joué entièrement en solo, suivi en 2016 par Aina, un best-of de 9 titres, complété par 3 nouvelles chansons. La volonté de Pedro est que chacun de ses albums soit différent dans sa structure et sa réalisation. Enfin, sur Vite à vie, d'ailleurs c'est le morceau qu'on écoute en ce moment, Pedro accueille des invités prestigieux comme Mamani Keïta, vous le disiez Jean-François, le pianiste Abdoulaye Diabaté ou le balafoniste Lansine Kouyaté, les harmonicistes Jean-Jacques Multo et Vincent Buchet et les rappeurs Rossé et Oxmo Puccino. Et puis Pedro va aussi partager une de ses mélodies avec Arthur H, où sont clamés des O et des A.
Ce O et ce A qu'Arthur H a bien dit, c'est waouh, waouh, qu'est-ce qu'on va faire dans ce Sahara? Le problème dans le Sahara, c'est le problème partout. Parce que si le mec, il arrive à prendre le bateau pour venir à Paris, vous avez vu ce qu'il peut faire. Donc le problème malien et le problème dans le Sahara, ce n'est pas que le problème du Sahara et du Mali. C'est un problème universel. Mais ça, c'est le O et les A. Et là, on ouvre la bouche et on prend plein la gueule.
Mielé, Walemi. Le vent était puissant, brûlant. Des rafales qui fouettent le visage. Je ne portais pas de foulard. Ouais, c'est le désert. C'est le désert.
Sahara Blues, Pedro Kouyaté aux côtés d'Arthur H. Merci Alain, merci aussi à Fanny, Edmond et Amélie. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve lundi avec Marc-Antoine Mathieu pour L'Hyper Rêve, le nouvel album de Julius Corentin Hackefack, prisonnier des rêves. Il vient de sortir aux éditions Delcourt et vous m'en direz des nouvelles.
La bouche. Le vent, mon ami, le vent a profité de l'occasion.